Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. C'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. Et d'ailleurs, même si le phénomène a largement gagné l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, les termes qui définissent ce phénomène sont anglophones. Wellness, healthy, traduit en français, bien-être. Comment mieux manger? Comment bouger plus? Les conseils fleurissent dans les magazines, les initiatives se multiplient à tel point qu'on peut se demander si aujourd'hui prendre soin de soi ne vire pas parfois à l'obsession, effet de mode ou vrai besoin de s'échapper d'une société devenue trop compétitive. C'est notre débat ce soir. Et nos deux invités en studio, Patrick Collignon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coach en développement personnel, en épanouissement, auteur de plusieurs livres. Alors on va citer « Merci mon stress » ou encore « Heureux si je veux » face à vous. Dan Velea, bonsoir.
Bonsoir.
Psychiatre, addictologue. Alors d'abord, pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que c'est la journée mondiale du yoga qui a été décidée il y a 4 ans de cela par l'ONU. Aujourd'hui, on estime qu'il y a dans le monde 300 millions de personnes qui pratiquent le yoga. Pourtant, c'est une activité qui existe depuis des millénaires. Pourquoi, selon vous, Patrick Collignon, est-ce que le yoga remporte autant de succès aujourd'hui?
Écoutez, je pense que le monde est suffisamment stressant actuellement pour que les gens soient en recherche de solutions assez faciles à pratiquer qui leur fait se sentir mieux.
Le monde est plus violent aujourd'hui qu'avant?
Violent, je ne sais pas, mais stressant certainement. Quand on voit la population des travailleurs, par exemple, il me semble que la pression s'accentue. Moi, j'ai pas mal d'amis qui travaillent dans des grosses boîtes, des multinationales, et leur management, ou en tout cas la pression des résultats, etc., fait que de plus en plus, ils sont dans un monde qui me semble pas spécialement réaliste. Et ça crée une tension stressante pour eux au quotidien.
Plus de stress aujourd'hui, Dan Velea. Vous êtes psychiatre, vous l'observez?
Oui, évidemment, on sait très bien que le stress a été défini à la base comme un syndrome d'adaptation générale, donc déjà Hans Zell. Ça fait déjà presque un siècle. Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est le mauvais côté du stress. La partie vraiment épuisement, la partie burn-out, la partie où les gens sont vraiment en souffrance au travail, aux souffrances personnelles, et qui sont dans des médications, des surmédications, qui sont dans la recherche des solutions un petit peu, des fois aléatoires, mais des fois vraiment adaptées. Mais il faut qu'ils trouvent vraiment le bon filon. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention, c'est qu'on vit dans un monde où l'anxiété de performance, elle est présente chez les étudiants, chez les élèves. Le stress au travail, il est présent dans le monde de l'entreprise, et pas seulement l'entreprise, mais aussi les hôpitaux, la police, l'éducation nationale. Et on est assez démunis parce que finalement, il y a énormément de débats stériles dans des chapelles différentes qu'il suffirait vraiment de redéfinir un petit peu le bonheur et l'accessibilité au bonheur. Pas sous forme d'obligation, mais des fois, définir avec les gens qu'est-ce que ça représente pour eux, le bonheur.
Comment vous le définiriez alors, vous, aujourd'hui, auprès de vos patients?
Le bonheur, c'est quelque chose qui vient de soi et qui s'adapte, et qu'on arrive à s'adapter parfaitement à ses modes de vie, à son mode de croyance. On peut découvrir le bonheur à travers d'autres activités, que ce soit la méditation, que ce soit les voyages, ainsi de suite. Mais on est dans des dictats de société maintenant. On se pose même la question s'il n'y aurait pas des ordonnances 49.3. Être heureux, afficher un visage heureux à un moment donné. Parce que les gens qui sont tristes déjà, ils se font dépister par leurs collègues, ou voire même la médecine du travail, d'y aller se soigner. Peut-être que c'est un épisode passager dans leur existence, un deuil, un déménagement, un divorce. Et on arrive à ces dérives.
Patrick Collignon, les conseils de bien-être qui fleurissent, manger mieux, bouger plus, c'est une quête de bonheur selon vous?
Si on croit la psychologie positive, la définition entre guillemets, la formule du bonheur, ça va être des moments de plaisir, plus des moments, ce qu'ils appellent du flow, donc des moments où on est vraiment concentré sur sa tâche, quelque chose qui nous correspond, on voit pas le temps passer, il y a toujours une petite dimension de défi. Et puis la question du sens. Donc si on met, ça c'est les trois ingrédients du bonheur, donc oui, j'imagine que les gens vont chercher un peu de plaisir, par exemple dans la nourriture, pourquoi pas, ça fait partie de l'histoire de la démarche, mais ce n'est pas toute la démarche.
Et est-ce qu'il y a plus une recherche de sens aujourd'hui, ou est-ce que justement cette recherche n'est pas la même qu'avant? Le sens que l'on recherche n'est pas le même qu'avant, où il y avait peut-être d'autres obligations.
Je pense qu'il y a eu une grosse modification de la société dans les années 60-70, qui fait que les gens maintenant sont amenés à prendre de plus en plus d'initiatives et de plus en plus de responsabilités, en tout cas d'être accountable, donc responsable de leurs actes. Et c'est pas si évident, surtout dans une société qui évolue aussi rapidement, avec autant de changements en permanence, la mondialisation, etc. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et cette part d'incertitude amène également toute une notion de stress, je pense, ou de difficulté, de peur.
Mais la performance qu'évoquait Dan Velea, on a l'impression que parfois c'est une pression que l'on peut se mettre aujourd'hui en plus, qui n'est pas nécessaire. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Si on veut survivre, c'est peut-être nécessaire, en tout cas dans l'esprit des gens. Maintenant, c'est vrai que cette pression, ça dépend aussi de notre manière de la gérer. Si on est stressé, c'est parce que on est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche.
C'est une performance pour soi-même, en fait, plus que pour atteindre un objectif précis. C'est pour l'image de soi.
Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la différence entre le pour soi-même et le pour l'image de soi. C'est pas forcément pareil pour moi. Donc, j'ai l'impression qu'on doit défendre une image et que cette image, plus elle est séparée de la personne qu'on est vraiment, plus on va avoir du stress.
Il y a l'auteur américain, justement, qui est devenu superstar aujourd'hui, Zig Ziglar, qui dit « Plus vous avez une image positive de vous-même, plus vous augmentez vos chances de réussite. » Mais ça renvoie à une idée de contrôle, une idée de performance. Comment on fait si on, parfois dans la vie, on cède à des excès? Il y a toujours l'image de contrôler son image, l'idée de contrôler son image, d'être le plus positif possible.
Je pense que pour les excès, vous avez le meilleur interlocuteur en face de moi.
Exactement. Dan Velea.
On est dans une société qui souffre d'une pathologie de l'excès et de l'extrême. Et tout ce qu'on fait à l'heure actuelle doit être poussé à l'extrême parce que sinon on n'obtient pas de résultats. On est dans une société à l'heure actuelle où on voit que la notion de challenge personnel, challenge au travail, c'est devenu quelque chose de moteur. On oublie que des fois, il y a des solutions de compromis, qu'on peut arriver à un but sans forcément escalader l'Himalaya, mais en contournant la montagne. Et toutes ces choses-là, on les voit régulièrement dans notre pratique, où vraiment bonheur, wellness, plaisir ou quoi que ce soit sont complètement mis de côté. On a quitté la notion quête hédonique pour se trouver vraiment à l'heure actuelle dans une obligation à tout prix d'obtention de résultats. Société d'image à travers les selfies où les gens vont se mettre en évidence au bord de la piscine, à la salle de muscu, lors des voyages, ainsi de suite, le plus grand bronzage en revenant des vacances. On est arrivé à faire du tourisme maintenant, du tourisme de type rafale. On prend en photo des images en rafale, on réfléchit même pas ce qu'il y a derrière. Et on montre tout ça sous son journal Facebook, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux, afin d'être valorisé. Si on n'est pas valorisé, on souffre. Donc on est vraiment dans une société où la balance, elle est très, très difficilement récupérable, je veux dire, à l'heure actuelle, parce que on n'a plus une quête intérieure de plaisir. Si on écoute, on parle de yoga, justement. Yoga, c'est quoi? C'est une manière de détente, c'est une manière de respiration, c'est une manière de méditation. Trouver en soi le bonheur. Si je cherche à trouver un bonheur consumériste dans la détention, dernier modèle de téléphone, dernière voiture à la mode, les fringues, ainsi de suite, automatiquement, je suis dans le faux, parce que j'oublie la part de moi.
Patrick Collignon, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le bien-être, on peut le comparer à une forme de narcissisme, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, la mise en scène de soi-même?
Oui, je pense que les gens sont surtout un peu perdus. Comme disait Dan, on a du mal à trouver nos propres racines, nos propres ressources, qu'est-ce qui nous correspond à nous. Donc on va aller vers du consumérisme dans le sens où il y a un modèle. Et ce modèle, il a l'air vraiment super, parce qu'effectivement, quand on voit nos amis qui se promènent partout dans le monde, quand on voit les stars, les footballeurs, parce que ça, c'est d'actualité, on se dit qu'ils ont forcément une vie super, parce que tout le monde les trouve géniaux. Donc on va aller tendre à être comme eux, sauf qu'on voit l'image de ces braves gens.
C'est très actuel. Est-ce que c'est pas un effet de mode, finalement? Ou est-ce que c'est vraiment la société qui crée ça aujourd'hui?
La société, quelque part, crée ça aussi, parce que à force d'être dans, d'une part, des tensions et d'autre part, des modèles, la tension nous amène, plus on est en souffrance, plus on va avoir tendance à chercher quelque chose qui compense. Ça peut être de la surcompensation, ça peut être de l'addiction, ça peut être aussi juste une quête du bonheur, de moments de plaisir pour lâcher la pression. La société, c'est vraiment énormément de pression.
Dan Velea, vous observez de nouvelles pathologies aujourd'hui qui sont liées justement à cette culture du bien-être, encore une fois, cette idée, je vais faire du yoga, mais je vais aussi faire attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je fume. Mais
on observe justement des nouveaux aspects pathologiques qui se rajoutent sous un syndrome anxio-dépressif, sous une névrose quelconque. Et justement, toutes ces obligations-là de réussir, d'afficher ou quoi que ce soit, on les voit par exemple dans la pratique intensive du sport. On a des gens qui se mettent à faire du sport sans écouter le conseil d'un coach ou quoi que ce soit, et qui se blessent au bout d'un certain moment. Certains d'entre eux vont comprendre, ils s'arrêtent, les autres vont continuer. En sachant qu'ils ont fait quelques séances de kiné, ils se disent, ça repart. Ce qu'ils arrivent à l'âge de 60-70 ans, ils sont complètement cassés, ils ont des problèmes osteo-articulaires importants, ainsi de suite. Mais l'important, c'est d'avoir connu, comme disait Andy Warhol, ces 15 minutes de gloire, ne serait-ce qu'en faisant un selfie de soi à la salle avec 120 kilos dans les bras, ou avec des pectoraux bien gonflés, bien bronzés, on pose cette photo, et après on peut laisser la vie continuer. Donc, est-ce que ça vaut la peine, justement, pour ce type moment excessif, de tout sacrifier, de tout mettre en danger à côté?
Et le plaisir dans tout ça, on a envie de demander, Patrick Collignon.
Le plaisir dans tout ça, c'est une notion qui perd un petit peu de son sens. Je voulais rebondir aussi sur le besoin de reconnaissance.
Ouais.
Au final, quand on se crée une un masque quelque part pour répondre aux obligations de l'extérieur, c'est parce qu'on a besoin de reconnaissance. Or, la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui appartient à l'être humain. Si on a réussi à survivre et à devenir un peu l'espèce dominante de la planète, c'est parce qu'on a toujours réussi à collaborer. Et pour collaborer, il faut se reconnaître, il faut savoir qu'on est face à un autre être humain. Donc ça, c'est le principe de « tu existes ». Et puis, il faut reconnaître ses qualités, parce qu'on va aller chasser ensemble le mammouth, et donc autant savoir que c'est un bon chasseur. Et ça, c'est la valeur. Donc j'existe et j'ai de la valeur. C'est un truc dont on a besoin et on va le rechercher d'une manière ou d'une autre, même en disant bonjour le matin à quelqu'un, déjà on existe. Et les réseaux sociaux pour ça sont vraiment un leurre assez important, parce qu'on a 150 000 likes, mais en fait on n'est pas nourri en termes de reconnaissance.
Et là, mais le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui peut virer à la pathologie. Est-ce que tous les conseils de bien-être qu'on a évoqués répondent à cette question, ou est-ce que la réponse, elle n'est pas plutôt du côté de la psychologie?
De toute façon,
de la psychiatrie.
Oui, ou de la psychiatrie. Donc moi, je dis toujours, en tant que coach, j'aide les gens qui vont bien à aller mieux. Donc je n'ai pas le même public que monsieur. À côté de ça...
Est-ce que vous n'avez pas aussi des gens qui viennent vous voir et vous leur dites, vous êtes trompé de porte, il faut que vous alliez voir quelqu'un comme Dan Velea, un vrai psychiatre?
Oui, entre nous deux, il y a encore tous des psychologues cliniciens. Donc oui, absolument. Parfois, je renvoie les gens vers des personnes qui sont plus appropriées que moi.
Qui sous-estiment peut-être leur mal-être en étant dans cette compulsivité, on pourrait dire, d'une recherche toujours d'un bien-être, mais complètement excessive?
Pour moi, cette compulsivité, elle vient aussi d'un manque. Si les gens manquent vraiment de quelque chose, ils vont avoir tendance à surcompenser ce manque. Et s'ils ne savent pas de quoi ils manquent, et je trouve que les gens sont très mal informés sur comment ils fonctionnent en général, s'ils ne savent pas d'où vient ce manque, bah alors ils vont surcompenser en fonction de ce qu'on leur propose.
Est-ce que c'est une maladie du siècle, ou est-ce que c'est finalement... un problème de riche? Est-ce que quand on doit uniquement subvenir à ses besoins, on se pose plus toutes ces questions-là, ou est-ce que, selon vous, ce type de débat est dépassé?
Là, ça nous renvoie justement à tout ce que disait Patrick tout à l'heure, cette notion de sens. On n'a pas vraiment un sens existentiel. On est un peu perdu. On fait comme les gens dans le moule. On arrive à une sorte de bal masqué. Tout le monde a sous son visage, comme dans le théâtre antique, un personnage. Il joue un personnage. Il affiche ce personnage. Mais ce qui est important, c'est qu'on a parlé beaucoup de la manière, peut-être que c'est les psychiatres qui doivent s'occuper. Oui, mais psychiatres, mais toute la société sont psychiatrisés, sont diabolisés justement ce genre de phénomène. Peut-être qu'ils sont des épiphénomènes et qui vont passer au bout d'un temps. Ce qui est important dans le besoin de reconnaissance, c'est qu'on peut assister souvent à des failles narcissiques, des gens qui ont besoin d'être reconnus. Et nous, on travaille avec eux que la première reconnaissance, la meilleure reconnaissance, c'est la reconnaissance de soi. Donc si j'ai une estime de moi correcte, si j'ai confiance en moi, je peux tout réussir. L'image que j'envoie aux autres, c'est plus une image de masse, c'est de quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui est sûr de soi. Et après vient la reconnaissance des autres. Mais si on se base seulement sur la reconnaissance des autres, tout peut s'effondrer à tout moment, et les drames derrière sont quand même très importants.
Mais pourquoi ce problème d'image de soi est le plus important aujourd'hui?
Mais le problème du soi, il est complexe. Cette conscience un petit peu de soi, elle était mise de côté un petit peu parce qu'on est un peu dans une démarche très collective, évidemment. Vous avez dit tout à l'heure que c'est peut-être un problème de riche, ces histoires-là. Mais on revient régulièrement, à chaque fois qu'on nous dit à quelqu'un « il faut être égoïste », les gens vont comprendre ça sur un mode où ils sautent au plafond, ça veut dire quoi ça, égoïste, c'est un défaut. Non, égoïsme, c'est ego, c'est penser à soi aussi. Se centrer, se focaliser sur soi, ça ne veut pas dire forcément oublier les autres et devenir quelqu'un avec un cœur de pierre.
Mais c'est comme symptomatique d'une société devenue trop individualiste, selon vous?
Il y a justement ce côté trop individualiste qu'on n'arrive pas à lutter avec. Les individualistes d'un côté et de l'autre, ceux qui veulent nous mettre tous dans le même moule, avec les mêmes habitudes alimentaires, de santé, de pratique, d'exercice, ainsi de suite. Et finalement, les gens qui veulent se décrire et se définir eux-mêmes, ils n'arrivent plus. Parce qu'ils sont dans des modèles où le modèle de la personne qui détruit les autres, qui n'en a rien à faire des autres, ou le modèle « je suis la masse, la foule ».
Patrick Collignon, vous êtes coach en développement personnel et en épanouissement. Oui. Ce sont des métiers qui n'existaient pas avant.
C'est vrai, oui.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a cette nécessité? Est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il y a peut-être aussi... business is business, un petit peu. Il y a énormément d'argent. J'ai parlé au début de cette émission de plusieurs milliards de dollars que pèse aujourd'hui l'industrie du bien-être. Est-ce qu'il n'y a pas des besoins qui sont créés pour cette société-là?
Je me rappellerai toujours d'une fille de 11 ans qui un jour présentait un chef-d'œuvre en fin d'école primaire sur le marketing et qui a dit « Le marketing, c'est des gens qui créent chez nous des besoins qu'on n'a pas. » Donc, ce jour-là, c'était il y a plus de 10 ans, j'avoue que je m'en souviens parce que c'était assez intéressant. Maintenant,
vous avez l'impression d'être dans cette lignée-là?
Moi, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui font cette démarche d'aller demander de l'aide quand ils en ont besoin, ce qui était moins le cas avant. Et l'intérêt du coach, c'est que on peut y aller en disant je ne suis pas malade. Moi, je vais bien, je veux aller mieux justement. Donc c'est aussi comme ça que je me présente parce que je ne suis pas médecin, donc c'est clair. Mais la démarche est plus simple que d'aller voir un psychologue ou un psychiatre.
Quel type de conseil vous leur donnez ?
L'idée de l'épanouissement, c'est de développer son plein potentiel. Donc tout ce qui est en soi, de pouvoir le vivre. Et par exemple, j'ai plein de gens qui sont super mentaux et qui sont super éloignés de leurs émotions. Alors c'est des choses qui sont très simples, mais c'est vrai que nous, les êtres humains, surtout les garçons en Occident en tout cas, tout ce qui est tristesse, quand on pleure et qu'on est petit, on nous dit bon, arrête de pleurer. Quand on a peur, on nous dit bah, y a pas besoin d'avoir peur, regarde en dessous de ton lit, il n'y a pas de montre. Et quand on se met en colère, souvent l'adulte se met plus en colère que nous et nous écrase un petit peu, on se calme. Mais donc, tout ça, c'est des modes d'expression qu'on a à la base dans notre nature et qui ne sont pas du tout utilisés. Alors on va compenser, même de manière tout à fait normale, en étant super mentaux, par exemple.
Dan Velea, est-ce que l'être humain s'enrichit, selon vous, avec ce type de méthode? Prenez qu'à
bien,
Patrick
bien évidemment,
Collignon.
Parce que c'est une méthode de guidage et le coaching à la base, c'est quoi? C'est qu'on est à peu près ton niveau de performance et tes exigences. Il ne faut pas que tu atteilles vers la performance d'un champion d'athlétisme quand tu es un coureur de dimanche, mais sois bien avec ce niveau-là et administre bien la récupération, et ainsi de suite. Après, ça peut être dans le monde du travail la même chose. Il ne faut pas tomber dans les pièges justement des coachings de groupe ou individuels, on impulse les gens avec moi tu vas devenir le meilleur dans ton domaine ou quoi que ce soit. C'est assez faux et des fois, qu'est-ce qu'on fait avec la déception des gens par la suite? Mais le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une société qui est quand même concurrentielle, et c'est une société où les gens vont utiliser tous les moyens pour pouvoir se départager des autres, que ce soit en termes d'image, en termes de performance intellectuelle et physique.
Ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, avec cette idée de narcissisme, les réseaux sociaux.
Et puis, on se fait quand même valoriser en fonction de ce qu'on montre comme apparence, et la société du paraître, et l'être, il est loin derrière.
Donc tout cela peut être temporaire, selon vous ?
Temporaire, si on impulse les gens à se connaître eux-mêmes. C'est les philosophes qui disaient qu'on est autant-même.
Et quelle sera la prochaine étape, alors ?
La prochaine étape, c'est peut-être se dire aussi, à un autre niveau, pourquoi les gens ont ce type, ces besoins de performance? Parce que, au-delà de l'aspect marketing, vente des produits ou des conseils de groupe ou quoi que ce soit, se posera la question, est-ce que notre société, elle est si bien organisée que ça? Est-ce que les gens sont capables de s'adapter, de faire du coping face à ce type de situation?
Patrick Collignon, vous pensez que cette nécessité de performance, ça va passer?
Moi, je pousse rarement mes clients à la performance. Moi, je les trouve surtout...
Cette nécessité... vos clients viennent vous voir peut-être aussi parce qu'ils ont un souci de performance.
Ils viennent me voir surtout parce qu'ils se sentent pas bien et qu'ils sentent que le souci de performance, il vient de l'extérieur et qu'ils sont sous pression. Donc moi, l'idée, c'est de les rapprocher d'eux-mêmes, clairement. Et donc, performance, personnellement, j'ai plutôt tendance à les aider à se former une bulle de protection contre la performance, où peut-être ils trouvent des temps pour eux, pour mieux se connaître et pour mieux se vivre, en fait, tout simplement.
Mais est-ce que vous pensez que ces problématiques peuvent évoluer dans les années qui viennent ?
Oui, je pense que ça va se généraliser, oui, il y a de plus en plus de
ça
gens.
Ça va devenir de plus important. Je pensais évoluer dans le sens où ça pouvait passer. Non, pour vous, c'est le contraire. Ça va devenir de plus en plus important.
Ça devient, en tout cas, donc moi je viens de Belgique, ça devient quelque chose que les gens font d'aller chez un coach. Avoir un coach, c'est presque mieux que de ne pas en avoir. Alors qu'il y a 10 ans, c'était pas du tout le cas, quoi.
Et on parle de kinésiologie, on parle de Reiki, on parle même de chromothérapie, c'est l'activité de coloriage.
Oh non,
c'est nécessaire tout ça.
Des techniques, il y en a des centaines. En termes de pur stress maintenant, si les gens font une activité qu'ils pensent être bonne pour eux en termes de stress, c'est généralement bon pour eux.
Vous, Dan Velea, qui est le psychiatre, vous en pensez quoi toutes ces activités que je viens de citer?
Du moment qu'il y a une intentionnalité d'aide et de soins vis-à-vis de la souffrance des gens, pourquoi pas? Et il faut, si on tombe pas dans des dérives sectaires ou quoi que ce soit, autant faire. Il y a des gens qui sont formés, il y a des gens qui sont quand même validés par des sociétés, d'associations, des sociétés savantes, donc il n'y a pas un danger là-dessus. Mais il faudrait peut-être que ça soit à tous les niveaux, déjà prévention primaire, déjà commencer par les enfants qui sont soumis à une anxiété terrible en termes de performance et de réussite à tout prix, qui ne savent plus gérer une souffrance ou une déception, leur déception ou celle des parents qu'ils ont peur de l'avoir produite, et qui vont souffrir par la suite et qui vont se trouver automatiquement en consultation ou dans une souffrance à long terme.
Et on a bien compris que le souci de performance était bien le nerf de la guerre dans cette question. Merci beaucoup Dan Velea, psychiatre addictologue. Merci à vous Patrick Collignon, coach en développement personnel et en épanouissement. Merci à Florence Ponce qui a préparé ce débat, à Laurent Salerno qui l'a réalisé. Débat que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Restez à l'écoute. Dans 30 secondes, le retour de l'info.